Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel, aujourd'hui en compagnie de Daniel Goossens, scientifique, chercheur en intelligence artificielle le jour, chez lui, même s'il est à la retraite. Daniel Goossens est dessinateur de bande dessinée d'humour le soir, et comme on est vendredi, c'est-à-dire le jour de l'actualité de la bande dessinée dans le Réveil culturel, et bien sûr, c'est bien sûr le dessinateur qu'on reçoit à l'occasion de la sortie du tome 1 de l'intégrale des histoires de Georges et lui, ces deux inénarrables romans sans inspiration, sans talent, qui partage un bureau et des rêves de gloire littéraire. Bref, l'humour absurde entre les Monty Python et Gottlieb de Goossens tombe bien ce matin car la saison des prix littéraires s'ouvre bientôt.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Daniel Goossens.
Bonjour.
Alors Georges et lui, vos deux romanciers qui ratés, on peut le dire, qui sont inspirés par Bouvard et Pécuchet, c'est peut-être aussi l'époque qui les a vus naître dans les pages de Fluide glacial qui pourrait les mieux les définir, non ? Qu'est-ce qui se passait en 1993 ? Ça commence en 1993 ?
Oui.
Qu'est-ce qui se passait à cette époque dans le milieu littéraire français pour que naisse dans votre esprit cette envie aussi de parler de façon détournée du monde littéraire ?
J'ai travaillé à Fluide glacial mensuellement et donc en dehors de cette collaboration régulière, je notais des choses que je trouvais plus spéciales, plus particulières, peut-être difficiles, je ne savais pas encore. En me disant, je ferai ça dans une série. Ça prenait toujours la même forme, c'est-à-dire deux écrivains, ou en tout cas un tandem, avec des idées, autour d'idées littéraires, des jugements de valeur, voilà, des choses de ce genre. Donc c'était un petit peu indicible, hein, j'ai pas de cible identifiable dans ces trucs-là, et j'aborde un peu tous les thèmes. Donc, c'est pas lié à un contexte culturel de l'époque.
Littéraire. Ouais, puisqu'ils sont écrivains.
On cite toujours Bouvard et Pécuchet. Donc, il y a quelque chose de correct. Mais il y a une grosse différence. Ils n'ont pas du tout les mêmes caractères que Bouvard et Pécuchet, Georges et Louis. Louis, c'est un type qui est collé à son affectif. Il explose toujours avec des réactions extrêmement affectives. Il est très loin du recul de la compréhension. Ce que n'ont pas Bouvard et Pécuchet, eux, ils sont toujours dans l'échange intellectuel profond, que eux veulent profond.
Ouais,
donc le décalage comique vient de là. C'est-à-dire, le lecteur sait que c'est pas profond, mais les personnages croient qu'ils sont profonds. Alors que dans Georges et Louis, Louis est un enfant. J'utilise quelque chose qui pourrait s'apparenter à un procédé, le fait de faire réagir un personnage comme un enfant. L'enfant, c'est quelqu'un qui a pas de recul et qui fonce dans ses combats affectifs.
Il est persuadé qu'il va devenir un grand écrivain et qu'il
absolument
va décrocher les plus grands prix.
Oui, et puis surtout, je suis retombé sur des histoires que j'avais complètement oubliées. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est ténu comme prétexte de faire l'histoire. Et puis, ça marche quand même. Je me souviens d'une histoire que j'avais complètement oubliée, où Louis a lu dans un bouquin une phrase, un jugement de valeur, justement, très littéraire. Si je me souviens bien, ça dit quelque chose du genre « L'artiste occidental imite la nature alors que le chinois exprime les sentiments qui en résultent ». Alors je ne sais pas, j'avais dû lire, pour répondre à votre question de départ, j'avais dû lire ça dans un bouquin, et ça tilte chez moi, genre le truc, je me dis « Mais pourquoi les gens veulent avoir des sortes de jugements de valeur fermés, carrés comme ça ?» Ou dans cette phrase, on a l'impression que le type qui l'a écrite voulait revaloriser l'art oriental par rapport à l'art occidental. Enfin bon, c'est un combat possible, pourquoi pas, mais on peut en faire des millions de combats de ce genre. Et ça me suffit, moi, pour avoir envie de tourner le truc en dérision. Et donc, le procédé, c'est Louis qui est catastrophé en apprenant cette nouvelle, quoi. Et il se met à pleurer, et puis l'autre le console en disant que les Chinois, ils sont pas non plus... c'est aussi des faces de citron. Enfin, il va chercher partout ce qu'il peut pour lui relativiser la chose. Enfin bref, quoi. Voilà un prétexte qui a l'air très ténu d'histoire et qui faisait, pour moi, l'intérêt de Georges et Louis d'entreprendre ce truc.
Daniel Goossens, c'est un fil tenu parce que vous vous moquez de ces deux personnages, de ces deux tandems, ce sont des écrivains ratés, il y a une complicité avec le lecteur, le lecteur sait très bien qu'ils ne produiront jamais une œuvre littéraire digne de ce nom, et puis leur inculture est là, mais vous trouvez le moyen de les rendre humains, de ne pas être le grand intellectuel qui se moque de ceux qui osent rêver d'être écrivains.
Exactement, mais bravo, moi je suis content, effectivement, il ne s'agit pas de se moquer d'écrivains ratés, pas du tout, c'est pas le sujet, hein. Ceci étant dit,
ils sont ratés.
C'est difficile de savoir de quoi on se moque. Il y a une vision usuelle de l'humour, du comique, qui hiérarchise, qui met tout en bas de l'échelle des formes dites vulgaires, le fait de se moquer du physique, par exemple. L'ironie, c'est, ou le sarcasme. Alors le sarcasme, c'est carrément une manière méchante de se moquer. Et puis on progresse via la dérision, l'absurde, etc., jusqu'à l'humour, où qu'on met en général tout en haut, en disant l'humour se moque de rien. L'humour, c'est quelque chose de très subtil, etc. Et donc moi, j'ai pas cette vision-là. Moi, j'ai une hypothèse, toujours des hypothèses. Hein.
Tant que bon scientifique que vous êtes, Daniel
Goossens.
Voilà,
exactement. C'est du travail intellectuel. J'ai une hypothèse qui est que dès qu'il y a du rire, si on fait rire, c'est qu'on se moque de quelque chose. Et alors du coup, il faut trouver de quoi. Et c'est ça qui fait la hiérarchie éventuelle, c'est-à-dire si on se moque du physique, effectivement, on est en bas de l'échelle. Et donc, dans Georges et Louis, je ne me moque pas d'écrivains ratés. Je me suis rendu compte même, j'aborde souvent la religion, l'armée, tout ça, mais je ne me moque ni de la religion, ni de l'armée.
Mais là, en l'occurrence, c'est en creux une critique du milieu littéraire, ouais. Du marché du livre en France,
non,
de ce qu'on attend des écrivains.
Je ne me moque pas de la littérature non plus. Après avoir vraiment...
Si, quand même un peu, non ?
Non, je ne me moque pas de l'armée quand j'aborde l'armée, je ne me moque pas de la religion quand j'aborde la religion. Je me moque pas de la littérature quand j'aborde la littérature. Je me moque pas du cinéma quand j'aborde le cinéma. Je pourrais foncer tout de suite à, mais j'aimerais bien essayer de voir si le cheminement est compréhensible. D'abord, effectivement, comme vous l'avez dit, je suis un peu un intellectuel. C'est-à-dire, je sais différencier le travail intuitif de quand on crée une BD du travail intellectuel. C'est vraiment pas la même chose. Quand je relis Georges et Louis sans a priori intellectuel, je me dis, je me suis amusé. Je relis, tiens, je sais pas de quoi je me suis moqué. Je me suis amusé et j'ai essayé d'amuser des gens. Je me rends compte à l'arrivée qu'il y a des gens que ça amuse, puis il y a des gens que ça amuse pas du tout. Et je me dis, comment est-ce qu'on pourrait rendre ça compréhensible pour faire en sorte que ceux que ça amuse pas comprennent que finalement... Et donc, il faut pas écouter son intuition. L'intuition elle dit pas la vérité. Les humoristes n'aiment pas trop faire de travail intellectuel. En général, ils valorisent l'intuition et ils préfèrent pas aller plus loin que ça. Par peur de rentrer dans des méandres intellectuels stupides, hein, qui sont trop loin de ce qu'ils pratiquent. Et finalement, moi, j'ai pas trop peur, parce que ça a été un second métier. Mon intuition me donne pas la vérité, mais elle me donne des pistes. Ça marche comme ça. Quand on travaille intellectuellement... on sait que l'intuition a toujours tort, mais elle est indispensable, elle donne les pistes de départ. Et puis ensuite, on expérimente et au bout d'un certain temps, on construit une nouvelle intuition. Et voilà, comme ça, d'intuition en intuition, qui se succèdent les unes aux autres, on finit des fois par avoir des choses un petit peu stables.
Et aujourd'hui, avec le recul, comment vous les présentez
Eh ben justement, alors voilà, je me suis rendu compte avec le temps que Louis... ce qui m'excitait chez Louis, c'était qu'il n'ait pas de recul du tout et qu'il se lance dans des ambitions de contrecarrer des jugements de valeur, des situations affectives. La littérature est bourrée de prises de position intimidantes, finalement. Donc c'est pas la littérature dont je me moque, c'est plutôt de religiosité ou d'illumination de littéraire, soit auteur, soit... consommateurs de littérature qui sont dans des attitudes peut-être pas religieuses mais illuminées en tout cas sans recul possible. Il est difficile de parler avec quelqu'un qui est fasciné par une façon de voir le monde littéraire. La littérature, c'est plein de lyrisme. Et le lyrisme, ça sert en littérature, mais ça sert aussi dans la pub. On vend n'importe quoi avec le lyrisme. Donc c'est marrant de se moquer du lyrisme et du fait que ce soit une technique de vente de n'importe quoi.
J'ai jamais eu cette lecture, le lyrisme. Il va falloir que j'y réfléchisse un peu avant de vous répondre, Daniel Goussens. Oui, vous restez avec nous.
Oui.
France Culture, le réveil culturel, Tufik Hakem.
Nous marchons dans la ville, nous croisons des regards, et ceci définit notre présence humaine. Dans le calme absolu de la fin de semaine, nous marchons lentement aux abords de la gare. Nos vêtements trop larges abritent des chairs grises, à peu près immobiles dans la fin de journée. Notre âme minuscule, à demi condamnée, s'agite entre les plis et puis s'immobilise. Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Ils étaient au nombre de 12. Leur vie était très limitée. Nous avons existé, telle est notre légende. Certains de nos désirs ont construit cette ville. Nous avons combattu des puissances hostiles. Puis nos bras amaigris ont lâché les commandes. Nous avons flotté loin de tous les possibles. La vie s'est refroidie, la vie nous a laissés. Nous contemplons nos corps à demi effacés. Dans le silence émergent quelques datas sensibles. Les hommages à l'humanité.
Les hommages à l'humanité. Michel Houellebecq, que vous avez reconnu, Daniel Goussens.
Ouais.
Vous êtes un grand lecteur, vous aimez vraiment la littérature. Est-ce que le Daniel Goussens, scientifique et dessinateur d'humour, est aussi un féru de littérature?
Non, j'ai vraiment lu comme un blaireau moyen, les trucs qui dépassent, que tout le monde connaît. Voilà, j'ai lu des trucs comme ça, ça ne m'attire pas trop, c'est vrai, ça ne m'attire pas tellement. En lisant, j'ai toujours préféré lire des documents journalistiques, des trucs près du réel.
Et, ouais.
On disait tout à l'heure, je ne sais plus quoi, mais en tout cas, ça me permet de dire, je donne l'impression de me moquer de tout, par exemple. Ça, c'est une image que je donne, mais beaucoup de gens dans la dérision que je pratique donnent le sentiment qu'on respecte rien, on se moque de tout, alors que c'est pas le cas. On se moque, on n'a pas de sujet tabou, disons. On peut aborder n'importe quoi. Il y a des gens, par exemple, qui prétendent que l'humour doit se moquer de ce qui est puissant. Alors, ils vont se moquer des riches, ils vont se moquer du capitalisme libéral, ils vont se moquer de l'armée, ils vont se moquer de la religion, mais de la religion comme une force maléfique qui fait des massacres, etc., etc. Et finalement, moi, je me rends compte que j'ai pas de cible concrète comme ça. C'est de l'absurde. Ça aborde n'importe quoi, et à tout moment, je pourrais donner l'impression que je me moque de choses sacrées ou de la faiblesse. Si je me moque de Jésus, dans une BD, il y a les moines, par exemple. Il y a une histoire dans l'intégrale sur les moines. Les moines, c'est pas la puissance, c'est la faiblesse. Et en fait, je me demande, est-ce que je suis un salopard? Est-ce que je me moquerais, moi aussi, de choses dont on ne devrait pas se moquer? Et bon, au recul, en réfléchissant, non, je me rends compte que ce dont je me moque, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, une sorte de comportement universel où des individus se ferment. En science, on appelle ça des scientistes, hein, les gens qui se ferment sur la science et l'idée que rien d'autre n'a de valeur pour comprendre le monde.
Mais voyons voir, par exemple, est-ce que vous vous reconnaissez dans Louis et Georges? Est-ce que vous vous moquez aussi de vous-même à travers
leurs
histoires?
Oui, parce que je suis comme Louis, c'est-à-dire
que
je suis assez affectif, je suis assez emballé facilement. Hein, je suis une sorte de crétin affectif qui s'emballe facilement sur des... D'ailleurs, là, je suis en train de m'emballer sur mes hypothèses. Heureusement, mon côté intellectuel me fait toujours comprendre que tout ce que je balance là, tout ce que je dis, tout ce que je raconte, c'est des hypothèses. C'est toujours comme ça. En sciences humaines, il n'y a que des hypothèses.
Non, mais là, par exemple, vous racontez la misère sexuelle à travers vos personnages.
Ouais, je me souviens plus, c'est quoi l'histoire?
Bon, bah, c'est quelqu'un qui va voir sa mère pour lui parler de ses problèmes sexuels et qui demande qui vole de l'argent à sa mère pour aller voir les prostituées.
Voilà. Donc, on sent en trame, c'est pas le sexe, hein, qui m'intéresse dans ce genre d'histoire. On sent en trame des sortes de jugements de valeur implicites qui sont bravés, hein, on pourrait dire, dans cette histoire. On est, le comique, j'imagine, marche sur la surprise. On est surpris que ce mec se mette, alors que ça commence dans des ambiances confidentielles, littéraires.
On est dans un bureau.
Oui, mais là dans cette histoire, il est chez sa mère, il pleure. Enfin, il y a quelque chose d'affectif quand même. Et puis, cette histoire se déroule en une succession de choses. Sa mère lui dit, bon, toi, ça suffit, maintenant, tu vas pas me prendre de l'argent dans mon sac à main, tu t'es reproduit, ça suffit. Mais maman, mais d'où t'as vu que je me suis reproduit? Enfin bon, des trucs de genre, j'adore ce genre de petites scènes comme ça, où les gens réagissent sans respecter les codes de politesse, la brave pratiquement à chaque réplique. Donc je pense que la cible de moquerie, c'est ça, c'est les fonctionnements sociaux, où on est caché derrière des...
Et ça se concrétise comment? Par le dessin? Est-ce que Daniel Goossens, vous avez vraiment opté pour ce dessin qui n'est pas la caricature? Il n'y a pas les gros nez, c'est pas non plus le dessin réaliste, on est entre les deux.
Ouais. C'est un semi-réalisme, ouais. J'aime bien ça, les scénaristes, parce que ça me permet de fixer les situations, les ambiances. J'aime bien, quand je fais une histoire de militaire, qu'on ait l'impression de lire un Buck Danny, ouais. Un truc de genre, un vrai, quoi. Donc j'aime bien maîtriser les décors. Et puis, mes personnages, par contre, eux, ils sont caricaturaux. Mais ils ont quand même des pantalons défraîchis. Tiens, j'aime bien ça. Cette cible dont je parle, ça a l'air de tenir longtemps, ça, cette cible, l'illumination, voilà. Le fait que tous, on s'illumine brutalement sur des pensées, toutes les disputes, tous les énervements collectifs viennent de là, on lâche pas le morceau. François Rollin sort un bouquin bientôt sur la bêtise, et lui il définit la bêtise non pas comme l'erreur, mais comme l'erreur qui persévère. Et comme il m'avait invité à illustrer son bouquin, ça a fait tilt en moi. Je lui dis, tiens, c'est bizarre qu'il soit focalisé là-dessus. Lui, c'est l'erreur qui persévère. Et finalement, l'erreur qui persévère, c'est aussi un peu l'illumination, je trouve. L'illumination, c'est-à-dire le fait d'un seul... Enfin, tous comme ça, d'avoir la tendance... Moi aussi, là, je suis en train de me focaliser, mais heureusement, j'ai ce recul de me dire, c'est que des hypothèses. Tout va bien, si jamais j'apprends... si Tufik Hakem me dit, non, moi, j'ai lu le bouquin, j'ai pas vu ça, j'ai vu autre chose, bah, je pourrais l'écouter, je pourrais lui dire, ah... C'est quoi que vous avez vu? Peut-être que je devrais modifier mon hypothèse, etc.
Vous êtes célébré par vos pairs, vous avez déjà été primé par les plus hautes distinctions qu'un dessinateur d'humour ou de bande dessinée peut rêver de décrocher un jour, c'est-à-dire le Grand Prix d'Angoulême, vous l'avez eu en 1997, c'est bien ça?
Ouais.
D'ailleurs, c'était la belle époque de Georges Elvis.
Ouais.
Vous n'avez pas un grand succès commercial, comme on dit de nos jours.
Pas un petit non plus.
Ouais.
Un succès, comment on dit...
Comment vous le vivez, Daniel Goossens?
Ah, mais pas rien de particulier, c'est-à-dire... Je vous l'avais dit, je notais des idées à une époque dont je me disais, ça c'est quand même assez particulier, segmenté j'imagine, on dirait,
ouais, dans aujourd'hui.
La pub. donc je m'attendais pas à ce que beaucoup de gens soient sensibles à ça. Qui a envie de voir une dérision qui a comme cible de moquerie ce genre de choses dont je parlais, les illuminations affectives. Louis, c'est ça, hein, c'est un illuminé affectif. C'est-à-dire, quand il commence une histoire, il est persuadé de son sujet. Il y en a une, on parlait de Flaubert, c'est Madame Bovary. Hein, Madame Bovary qui veut réussir dans l'informatique. Et donc, il est content de son sujet et il y fonce, mais que de façon affective. Il est... C'est une tornade, Louis.
Vous parlez beaucoup des histoires, c'est-à-dire de vos idées, de vos dialogues, des personnages, rarement de votre trait, alors que tout le monde vous considère comme un des plus grands dessinateurs français.
C'est gentil. C'est...
Non, mais ça, vous le savez, ça, Daniel Goossens.
En tout cas, je sais que j'aime bien dessiner. Voilà, bon. Ça, je le sais.
Et comment, alors justement, vous qui êtes aussi scientifique, est-ce que votre dessin est un dessin qui fait la synthèse entre tous les dessinateurs que vous avez aimés, Gottlieb en premier, ou est-ce qu'il s'en éloigne? Est-ce qu'il est...
Non. Ouais. Non, il y a du Gottlieb dedans. Il y a aussi beaucoup de Franquin, alors que Franquin, c'est pas du tout le même humour. C'est Gaston Lagaffe, c'est un gaffeur.
Mais pour les ambiances de bureau, effectivement, on pense tout de suite à Franquin.
Oui, c'est vrai, ouais. Mais disons qu'il aborde jamais de thèmes genre littérature. Il fait pas de dérision, de fonctionnement affectif et tout ça, Gaston. Hein, c'est un truc.
On parle de trait là.
Ah oui, pour le trait, oui. Ouais. Alors là, Franquin, c'est une fascination pour moi de tout temps. C'est un dessinateur extraordinaire, Franquin, extraordinaire.
Merci Daniel Goossens d'être passé ce matin.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Et si vous n'avez pas encore lu Daniel Goossens, une manière de plonger dans son univers, dans son monde décalé, c'est bien sûr cette intégrale de Georges et lui, ces deux personnages, ces deux anti-héros, ces deux écrivains ratés. Ça sort chez Fluide Glacial dans une très très belle édition. Le tome 1 est déjà en vente et pour le tome 2, je suppose qu'il faut attendre Noël ou l'année prochaine, Daniel Goossens.
En tout cas, oui, ça suit parce que j'ai vu la couverture du tome 2, donc...
Tout va bien. Merci d'être venu une fois de plus. Bonne matinée à vous tous. On se retrouve lundi. Cette émission a été préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Fabien Capel. Et on remet nos masques, c'est ça? Allez, c'est parti.